On savait déjà que le nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada allait désavantager les producteurs laitiers canadiens. Au cours des derniers jours, des mauvaises surprises se sont ajoutées alors que des clauses jusqu'ici inconnues ont été dévoilées avec la signature de l'entente finale. Nous en parlons avec le député fédéral de Mirabel, Simon Marcille. Monsieur Marcille, bonjour.
Bonjour, Monsieur Claude, comment allez-vous?
Très, très bien. Monsieur Marcille, il en est tout autrement pour les producteurs laitiers. Quelles sont les nouvelles clauses là, qui ont été rendues publiques au cours des derniers jours et qui ajoutent un fardeau supplémentaire là, sur les producteurs laitiers canadiens?
Le gros problème là, en ce moment là, avec le nouvel ALENA, comme il va être amené, reste que les producteurs laitiers sont toujours l'industrie des sacrifiés. T'sais. On en revient souvent avec ce principe-là. Dans une négociation globale, le gouvernement est toujours négocié pour ses majorités. Puis pour eux autres, le gouvernement veut principalement sauver, c'est surtout une question de l'industrie automobile, le sud de l'Ontario, le bœuf dans l'Ouest. Il y a plusieurs tables d'économie qui sont prioritaires pour le Canada, qui ne sont pas pour le Québec. Puis, de première vue, les producteurs laitiers. Puis justement, les producteurs laitiers, c'est le problème que ça nous donne, c'est qu'en ce moment, ils ont perdu une grosse partie. Ils ont perdu une petite partie dans l'accord avec l'Europe, une petite partie dans l'accord avec le Pacifique, avec les pays du Pacifique. Et là, avec l'accord américain, ils reprennent encore une autre partie de la gestion. Donc, on se retrouve dans une situation où les producteurs laitiers perdent pratiquement 2 semaines de production annuelle qui a été donnée dans des négociations à un autre pays.
Ce qu'on comprend maintenant, c'est que les Américains vont avoir un droit de regard sur la production canadienne, c'est bien ça?
Ce qu'on croit comprendre, c'est que, avec ce qui a été révélé, ce qu'on croit comprendre, c'est qu'ils vont pas regarder pour vérifier tout ça, mais parce que c'est une ingérence directe dans notre commerce. Là. Ça, c'est aberrant. On ne va pas regarder chez le voisin ce qu'ils font. Là, eux autres, ils se donnent le droit, avec ce genre de clause, de venir voir ce qui se passe chez nous. Ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Au niveau, c'est pas normal là, comme principe commercial d'aller vérifier ce que ton voisin fait chez eux. Là.
Et c'est à contre-cœur déjà qu'on avait concédé des concessions importantes dans le domaine de l'alimentation. Vous avez parlé un peu plus tôt pour tenter de permettre, par exemple, à l'industrie automobile ontarienne de survivre. On se rend compte au cours des derniers jours que ça n'a pas empêché quand même des annonces importantes concernant l'usine de GM à Oshawa.
C'est ce qui est le pire là-dedans. C'est que le Canada, là, ont voulu négocier une entente. Une entente commerciale, c'est normal de négocier. Ça fait partie du commerce en général. Donc, quand les Américains ont imposé une taxe de 25% sur l'acier canadien, puis de 10% sur l'aluminium, dans la négociation, on s'attendait à ce que, au moins, OK, s'ils font un sacrifice sur la gestion de l'offre, même si on est complètement en contre, on s'attendait au moins à ce qu'il y ait des gains comme, parce qu'au Québec, on a beaucoup d'alumineries, on s'attendait à ce que les gains de, au niveau, si les taxes soient enlevées, veut pas les taxes d'exportation pour les États-Unis. Mais là, ce qui est le pire là-dedans, c'est qu'ils ont coupé pour les producteurs laitiers, ils n'ont pas enlevé la taxe sur l'acier ni sur l'aluminium, puis en plus, ils ferment des usines en Ontario. Vous voyez à quel point ça devient aberrant comme négociation. Le Canada, là, ils ont dit oui, ils se sont mis à genoux, puis ils ont supplié leurs voisins américains de leur donner des grenades, puis c'est juste ça qu'ils ont eu.
Jusqu'à présent,
côté donc, négociation, c'est un peu ordinaire. C'est pas des maîtres, là, on s'entend. Là.
On peut affirmer, là, évidemment, dans la situation actuelle, qu'on est pratiquement perdant sur toute la ligne là, de ces pourparlers. Dites-moi, M. Marcille, pour revenir aux producteurs laitiers, maintenant qu'on est mis devant le fait accompli, il reste les compensations. Où en est-on à ce chapitre?
Là, le gouvernement, regardez, moi, des compensations, ce qu'on a su, du moment qu'ils ont vu signer de l'ALENA puis qu'ils embarquaient les producteurs laitiers, ils embarquaient dans le fond la gestion là là-dedans, parce qu'à la base, le métier voulait tout mal beau complet, puis on s'entend que ça, c'est inacceptable. Que ce soit les conservateurs avant 2015 ou les libéraux maintenant, les conservateurs avaient promis un fonds de compenser 300 millions après l'accord avec l'Europe, OK? Puis, savez-vous quoi? Cet argent-là a juste été octroyé en matière de prêt. Ça a été pas 300 millions, ça a été 250 millions. Ça a été parti en dedans de 5 jours, en plein milieu de l'été. Quand les producteurs sont occupés à travailler dans les champs, parce que c'est pas des fonctionnaires, donc ils sont pas en vacances l'été, là. Donc, ça, le gouvernement avait promis. Les libéraux sont arrivés, ils ont acheté un programme-là qui était complètement inefficace. Puis ça a été surtout donné avec des gros producteurs qui étaient plus dans l'industriel que dans les camps familiales. Puis là, ensuite, là, ils promettent encore, on va compenser. On va vous dire, le jour qu'on va voir le chèque pour les producteurs, là, on va y croire. Parce que moi, tant qu'ils n'auront pas compensé, là, puis qu'ils n'ont pas fait des chèques intégralement, là, puis les compensations de leurs pertes qui sont majeures, là, il y a beaucoup de fermes qui sont obligées, et les producteurs sont obligés de vendre. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont plus le choix au niveau de leurs revenus, puis ils peuvent pas diversifier parce qu'ils sont trop à travailler pour, ils manquent, la relève, c'est toujours un peu compliqué. En plus, ils sont prêts tellement à travailler, il faut qu'ils fassent de la paperasserie, puis des dossiers, puis faire beaucoup d'administratifs pour aller chercher des commandes, pas des commandes, mais des subventions. Fait que ces gens-là sont occupés à travailler pour vrai, là. C'est pas du monde qui perd leur temps, là. C'est des travailleurs qui sont, travaillent sur une terre laitière, là. C'est toujours sur ça. Il faut que le gouvernement compense. Ce ne soit pas conditionnel à telle formule, au fond, à transfert, là. Faut que ça soit, qu'il soit compensé, là. Ils n'ont pas le choix, là. Le gouvernement n'a pas le choix de mettre l'argent à la table. Mais, en gros, puis moi, il fait 16 milliards de déficit l'an dernier, on s'est entendu que, c'est là qu'on comprend qu'ils ne savent pas trop comment gérer ça, l'économie.
La sonnette d'alarme est donc lancée pour les petits, moyens producteurs. J'imagine que personnellement, il y en a qui vous ont contacté à votre bureau de circonscription pour témoigner d'une situation invivable.
Puis il y en a pas mal. Mais vous dire, là, les producteurs, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment vraiment pas ça. Puis j'espère vraiment que le gouvernement va se virer pour compenser. Maintenant qu'ils ont cédé sur à peu près toute la ligne, j'espère moi qu'ils vont répondre, qu'ils vont respecter leur promesse et qu'ils vont compenser. Là. Là, c'est parce que ça suffit de se coucher à la tête dans le jeu américain. Là. Puis on s'est entendu que le gouvernement libéral, en ce moment, ils n'ont jamais eu vraiment une colonne bien sur bien des dossiers. Ils ne savent pas gérer l'économie. Ils promettent des affaires, j'espère qu'au moins. Tu sais, on a déposé deux motions. Là. Moi, j'ai déposé deux motions en chambre, à la Chambre des communes, qui ont été adoptées unanimement pour que la gestion de l'offre soit respectée, protégée et respectée intégralement des négociations. Le gouvernement a juste tassé ça de la main en se disant que Ils ont eu plus peur, ils sont plus au fait de leurs voisins en négociation, les voisins américains, que de leurs propres citoyens. Parce qu'une motion unanime, là, de la Chambre, ce que ça veut dire, là, c'est que les représentants des 338 circonscriptions canadiennes, c'est-à-dire 34 millions de personnes, ont unanimement dit on veut que la gestion-là soit respectée, puis l'exécutif, qui est le conseil des ministres, ont fait fi de ça. Pour moi, ce qu'on appelle ça, c'est un déni de démocratie.
Monsieur le député Mirabel, à la Chambre des communes, vous réclamez donc une intention claire et directe du gouvernement Trudeau à très court terme là, pour rassurer les producteurs laitiers canadiens.
Pas juste une intervention le plus rapidement possible.
Idéalement, début d'année 2019?
Ah oui, mais les connaissants, on est habitués, ce qu'ils vont faire, ils vont promettre ça pendant les élections sont l'année prochaine, là. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils fassent de la petite politique avec ça, comme ils font dans bien des dossiers, là. Puis ils se mettent à faire de la petite politique avec ça. Hey, votez pour nous, puis on va vous donner un gros chèque. Ben oui, c'est parce qu'on s'entend que les producteurs, c'est là qu'ils n'ont besoin, c'est pas dans un an. C'est pas l'intervention dans un an, c'est là qu'ils n'ont besoin. Là.
Espérons que ça se réglera rapidement. Monsieur le député, dernière question, dans un tout autre ordre d'idée, vous avez parlé d'élections. On se dirige vers un scrutin fédéral l'an prochain. Course à la chefferie de votre formation politique. Est-ce que vous appuyez la candidature d'Yves-François Blanchet, là, qui a confirmé son intention de briguer la chefferie?
Oui, ben j'ai pas. Il y a plusieurs candidats qui ont signifié leur intention de briguer la chefferie. Il y a M. Blanchet, comme vous dites, en effet. Il y a M. Hébert aussi, qui est un citoyen de Deschambault dans le coin de Portneuf. Énoncer son intention de se présenter à la chefferie. Moi, je veux dire, en tout respect, comme je suis un officier au Bloc québécois, je suis whip du Bloc, j'ai quand même un devoir de neutralité et je compte bien l'exercer le plus jusqu'à possible parce que, ben, regardez, moi, c'est une question d'être conséquent, tu sais. Moi, je suis un officier, donc j'ai ce devoir de neutralité-là, puis moi, je compte bien l'exercer puis le garder. La course n'est même pas lancée encore, de toute façon.
Peu importe qui prendra les guides de votre formation, vous êtes confiant que le Bloc réussira à tirer son épingle du jeu au scrutin de 2019?
Oui. Ben oui, je suis convaincu de ça. Regardez, on est quatre à la ligne de départ au Québec. Les conservateurs ont toujours ont toujours été mauvais pour le Québec. Les libéraux, ils sont pas capables de compter, puis ils nous mettent dans des déficits qui sont hallucinants, puis ils font des promesses qu'ils ne respectent jamais. Le NPD, ça a été la vague de 2011, mais je pense pas que ça s'en vienne, puis ils représentent pas vraiment les lignes de la population. Fait que le Bloc québécois est dans un... Il est le seul parti qui a toujours représenté les Québécois, puis c'est toujours battu juste pour les Québécois. Donc, j'ai très confiance que le Bloc soit capable de tirer son épingle du jeu encore une fois et qu'on puisse augmenter notre réputation à l'exemple du